France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Quand il fait beau, tu sors, et là c'est comme dans une ruche, comme des abeilles qui volent dans tous les sens. Et tu ne peux pas comprendre si ce sont nos drones ou ceux de l'ennemi. Ils sont partout.
Mon travail, c'est viser et tirer, le plus précisément possible. Je me suis habitué, je suis déjà un peu sourd, mais ça va.
Il y a des chiens, des chats, des souris. Des animaux qu'on domestique et qui deviennent nos petits chouchous. Sur les positions, on n'est pas très nombreux. Et eux, ils se sont attachés à nous.
Plan de paix et cessez-le-feu ne sont pour l'instant que des mots. Et l'armée russe poursuit sa lente progression dans l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine a promis de prendre le contrôle de la totalité du Donbass par la force si l'armée ukrainienne ne s'en retirait pas. Et il revendique notamment la prise de Pokrovsk, nœud logistique essentiel aux forces de Kiev. Pour avancer de quelques kilomètres, les forces russes ont sacrifié des dizaines de milliers d'hommes. En face, l'armée ukrainienne est à la peine. En infériorité numérique et matérielle depuis le début du conflit, elle a de plus en plus de mal à mobiliser et le phénomène de désertion prend de l'ampleur. Pour les hommes toujours au front, comment ne pas se décourager ? Qu'est-ce qui fait encore tenir les combattants ukrainiens ? Eux qui accumulent fatigue physique et morale, les pieds dans la boue, avec au-dessus de leur tête le bourdonnement des drones, comment supportent-ils la tension permanente, les longues heures d'attente, l'éloignement de leur famille ? Et leur arrive-t-il encore de rêver ? Le 17 novembre, nos envoyés spéciaux en Ukraine ont pu rejoindre des artilleurs de la brigade Azov près de Pokrovsk, à quelques kilomètres des positions russes, et pendant 24 heures, ils ont partagé leur quotidien. Ukraine, 24 heures sur la ligne de front, c'est un reportage signé Virginie Peronon avec Yachar Fazilov et Marc Garvenès. Une précision pour commencer, nous avons enregistré cette émission mercredi 17 décembre. Nous ne parlerons donc pas des derniers développements en Ukraine, que ce soit sur le terrain ou sur le plan diplomatique. Bonjour Virginie Peronon.
Bonjour.
Alors qui sont ces artilleurs qui ont bien voulu vous accueillir ?
Alors tous sont des engagés volontaires depuis le début de la guerre à grande échelle en 2022. Le Benjamin Artem a 23 ans, il vient de la ville de Rivne, à l'ouest du pays. Il avait donc tout juste 18 ans quand la Russie a tenté d'envahir l'Ukraine. Il n'a pas pu commencer ses études. Yura, lui, était chauffeur routier, vous l'entendrez, c'est pour ça qu'il connaît si bien l'Europe. Il a voyagé partout au volant de son camion, il transportait des marchandises. Valiko, lui, vient de la ville d'Odessa et Oler était mécanicien. Il est originaire de la ville de Vinnytsia, au centre du pays.
Il n'y avait vraiment pas beaucoup de place dans cet abri militaire et vous étiez trois. Il y avait avec vous Marc Garvenès qui est ingénieur du son et Yachar Fazilov, fixeur ukrainien qui travaille avec Radio France depuis le début du conflit. C'est lui qui assurait les traductions. Pourquoi est-ce que ces soldats ont accepté votre présence ?
Alors, notre présence, en fait, à ces hommes les a d'abord étonnés. Évidemment, parce que c'est dangereux. Le commandant de cette unité, qui se fait appeler Riba, nous a d'ailleurs à peine adressé la parole. On ne l'entend presque pas dans le reportage. Et quand on l'entend, ce sont des propos, des paroles qu'on a pu saisir au vol. On en a déduit qu'il n'était pas vraiment pour notre présence sur place. Mais en revanche, au-dessus de lui, le commandant de la brigade, cette fois, que nous avons rencontré dans un lieu tenu secret, il nous a expliqué et pourquoi il a donné son accord, pour qu'on puisse témoigner tout simplement et donc lutter quelque part contre la propagande du Kremlin. Il nous a d'ailleurs chaleureusement remercié pour notre présence. C'est uniquement en venant chez nous, sur le terrain, nous a-t-il dit, que vous pouvez voir par vous-même de quel côté se trouve la vérité et que nous menons une guerre juste.
Merci Virginie, je salue notre invitée qui se trouve cette semaine à Kiev. Bonjour Anna Colin-Lebedev.
Bonjour.
Maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, vous proposez régulièrement des éclairages sur l'actualité de l'invasion russe de l'Ukraine. Votre dernier livre, Ukraine, la force des faibles, est paru cette année aux éditions du Seuil. Je vous laisse écouter le reportage de Virginie. Avant de revenir vers vous, nous partons tout de suite pour le Donbass.
À 6h du matin, le blindé, rehaussé de filets de camouflage, roule à toute allure sur un chemin plein de boue au nord-est de Pokrovsk. Nous sommes à moins de 7 km de la ligne de front, dans une odeur de poudre, des maisons en ruine, des trous d'obus. Nous profitons d'une rotation des militaires du 1er corps d'Azov, le bataillon Lioubart, juste avant le lever du soleil pour rejoindre leur position. Au bout d'une vingtaine de minutes, le blindé nous dépose devant un abri de campagne, dissimulé sous des filets de camouflage. Nous descendons à 3 mètres sous terre. Ils sont 5 à vivre ici, un commandant et ses hommes. En pleine offensive russe, c'est une des lignes de front les plus dures du moment, comme le confirme Oler, la trentaine, en tenue de camouflage, avec beaucoup de détachement.
Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est plutôt vrai. C'est un point chaud. Oui, pour moi. Chacun a son point chaud dans cette guerre. À Kherson, je me rappelle, en 2023, on a tiré 108 obus en une seule journée.
La mission de la brigade, tenir la porte nord de Pokrovsk, la localité de Rodinské, en soutenant les soldats ukrainiens au sol. 9h, l'ordre est donné. Au combat, les hommes doivent être prêts en une minute. Fusil d'assaut en main, les 5 soldats parcourent en courant les 60 mètres qui les séparent de leurs canons. L'engin, un Gvozdika de fabrication soviétique, calibre 122 mm, est à moitié enterré, dissimulé sous des branches. Grâce à un système de poulies, il faut d'abord retirer le camouflage. 2 soldats se glissent à l'intérieur du canon, 2 autres se positionnent de chaque côté. Accroupi à l'arrière, le commandant, Riba, est concentré sur son téléphone portable. Le commandant reçoit des positions GPS sur son téléphone portable, il est très attentif. Et quand on lui donne le signal, il donne l'ordre de tirer. La place d'Oler, c'est à l'intérieur du canon.
Mon travail, c'est viser et tirer le plus précisément possible. Je me suis habitué, je suis déjà un peu sourd, mais ça va. Si vous voulez, vous pourrez venir avec moi à l'intérieur la prochaine fois. Il y a une place. Le commandant donne les instructions, l'angle de tir, je règle la hauteur, l'angle, je fais tout avec précision, je règle les commandes. S'il faut, on corrige. Je dis au commandant que je suis prêt, on vérifie, et quand on est prêt, on tire. On charge, et voilà. C'est pas si compliqué, c'est facile. C'est comme n'importe quel travail. Je me suis habitué, ça va.
Petit bouc bien taillé, les traits encore juvéniles, Artem, 23 ans, est le plus jeune de l'équipe. Et lui se tient à l'extérieur, fusil d'assaut en main.
Ma tâche, c'est de surveiller si un drone ennemi s'approche. S'il nous attaque, je lui tire dessus. S'il reste juste au-dessus de nous, c'est mieux de ne pas lui tirer dessus, parce qu'à ce moment-là, il peut nous repérer, et on devient une cible pour l'artillerie russe.
Une fois les obus tirés, il faut à nouveau camoufler le canon pour qu'il ne soit pas repéré par les drones ennemis. Tout un aménagement mis en place notamment par Yura.
Ce qui est dur, c'est l'arrivée sur la position. Et sur place, il faut s'installer, creuser les abris. On bosse parfois sous la pluie, la boue, la nuit, le jour. C'est ça qui est dur.
Ah, c'est une bombe guidée qui vient de tomber. Bah voilà, c'est ça le plus dur.
Mais sinon, c'est un travail comme un autre. Vous savez, quand je bossais en Europe, c'était difficile aussi.
Valentin.
Valico.
Je m'appelle Valentin. Nom de code Valico, comme dans le film soviétique Mimino. J'aurai 42 ans dans quelques jours. Moi, mon rôle, c'est de charger. Je charge l'obus, ensuite le détonateur, et après le tir, j'expulse la douille. Oui, bien sûr, j'ai des gants pour ça. Ça fait 4 mois seulement que je suis dans cette unité. Avant, j'étais dans le renseignement.
Le renseignement, les éclaireurs, ce sont les hommes en première ligne. Valico a donc fait ça pendant plus de 3 ans avant de rejoindre les artilleurs.
Il y a une très grande différence. La principale, c'est qu'avant, je tuais au corps à corps, et aujourd'hui, je le fais à distance. Disons que pour le sabotage et la reconnaissance, je suis déjà vieux. Quand j'étais plus jeune, je courais bien, j'aimais ça. Mais c'est très physique. Ça demande beaucoup d'entraînement. Sans ça, c'est impossible. Mais au final, on a tous le même objectif. Que ce soit dans le renseignement ou ici, dans l'artillerie, les deux sont très importants. Ici, grâce à nos tirs, on couvre les gars en première ligne. On est tous étroitement liés les uns aux autres.
Et pour couvrir les gars, comme le dit Valico, il faut des obus. Ils sont stockés dans un abri creusé à côté du canon. Et c'est Philine, le hibou, un colosse aux yeux cernés, barbe rousse devenue presque blanche, qui se charge de convoyer ces obus que les hommes ici appellent les courgettes ou les crayons.
Riba !
Riba !
T'as
plein de nouveaux crayons qui arrivent là. Tu vas voir, tu vas reconnaître les tiens à la couleur.
Быка. Снаряды 72-е.
On leur apporte des munitions, oui. Dès qu'ils en ont besoin. Pour qu'ils tapent sur ces connards.
Chaque obus pèse 25 kilos, plus 6 ou 7 avec le détonateur. Un déchargement ultra sensible. Les hommes en profitent aussi pour se débarrasser de tas entiers de douilles qui pourraient du ciel faire repérer la position.
Il y a des drones.
Et il est à qui celui-là ?
C'est le nôtre.
Ah oui, je le vois. En remuant la queue, des chiens font leur apparition devant l'abri. Salut !
Ah, ça y est, le petit est déjà plus grand que sa mère.
Est-ce que c'est les mascottes ?
Ils viennent d'eux-mêmes, on les a recueillis, ces chiens. Les gens quittent le village, ils laissent les animaux derrière eux, et nous, on les accueille.
Sur presque toutes les positions, il y a des chiens, des chats, des souris, des animaux qu'on domestique et qui deviennent nos petits chouchous. Sur les positions, on n'est pas très nombreux. Et eux, ils se sont attachés à nous.
On peut apprivoiser une souris ?
Oui. Ça m'est arrivé une fois, quand j'étais sur une autre position. Une souris venait quand j'étais en train de manger. Elle s'asseyait près de moi et elle mangeait sans avoir peur.
Et vous auriez pensé ça avant la guerre ?
Non, non, c'est... Quand tu dois rester sur une position, tu n'as pas beaucoup de monde avec qui parler. Tes proches te manquent, tu ne peux pas partager l'amour que tu as pour eux. Et grâce à ces chiens et ces chats, tu peux compenser ce manque.
Le regard triste, Valico, 42 ans, explique être marié à Svetlana, 5 ans de moins que lui. elle aussi, s'est engagée dans l'armée.
Elle est à Odessa. Il est engagé depuis 2022. Il a demandé à être dans la même brigade que sa femme. Et maintenant, ils sont séparés et elle est à Odessa.
Elle est restée avec leurs deux enfants. Ils ont une fille de 18 ans et un fils, 14 ans. Valiko ne les a presque pas vus depuis 2022.
Et alors, tout le monde s'inquiète pour tout le monde ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ?
Da.
Oui. Quand ma femme est à la maison, elle part travailler le matin, elle revient le soir. Et moi, je reviens très rarement. Ils s'inquiètent. Ils sont contents quand je rentre. Mais bon, c'est comme ça.
Et Yura, vous aussi, vous avez des enfants ?
Oui, j'ai deux enfants. Une fille, un garçon.
Quel âge ?
Ma fille, 16, et mon fils, 21. J'ai Enya et Anya.
Le garçon, 21 ans, il va pas à la guerre ?
Bien против.
Ah, je suis contre.
Papa est,
il y a papa, ça suffit. Les papas n'ont qu'à aller à la place de leur fils. C'est même pas une question.
Et quand il prononce ces mots, Yura est assis à côté d'Artem, 23 ans. Le jeune homme se tasse sur lui-même, les mains autour des genoux.
Mourir.
C'est ce qui me fait le plus peur.
Dans la vie civile, ce sont mes parents qui m'attendent. Ma plus grande peur, c'est qu'ils ne puissent plus me voir. Tous les jours, ils s'inquiètent pour moi. Ils prient pour moi. Ma plus grande peur, c'est de ne plus revoir ma famille.
Il est un peu plus de 10 heures, on est sous le camouflage avec Valiko. Le temps est toujours nuageux. Mais ça n'empêche pas les drones de voler juste au-dessus de nos têtes.
Un temps comme aujourd'hui, pour nous, c'est bien, parce qu'on peut sortir dehors, travailler, aménager un peu la position. Nous avons tous les jours quelque chose à faire dehors. Camouflage, aménagement, on travaille. Et avec un temps comme ça, c'est bien, il y a moins de drones. Alors que quand il fait beau, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas sortir de l'abri. Quand il fait beau, tu sors, et là c'est comme dans une ruche, comme des abeilles qui volent dans tous les sens. Certains sont visibles, d'autres non, et tu ne peux pas comprendre si ce sont nos drones ou ceux de l'ennemi. Ils sont partout. Le ciel bourdonne, tout simplement. Il faut toujours faire attention. Est-ce que c'est un drone à nous ou pas ? Les drones ennemis peuvent aussi arriver par l'arrière, ils le font souvent. C'est vrai que quand ils arrivent depuis nos positions, on n'est pas très inquiet. Mais il faut toujours faire gaffe. Le plus important, c'est une habitude. Quand quelque chose bourdonne au-dessus, tu restes à ta place, figé, et t'écoutes. Parce qu'il repère très bien les mouvements.
À travers le camouflage, on observe donc des drones et on aperçoit aussi des maisons de l'autre côté d'un chemin. C'est d'ailleurs là que les hommes vont se laver le soir dans une maison abandonnée. Et parfois aussi, on peut voir passer des ombres, notamment celle d'un homme avec une sorte de motoculteur, presque comme si de rien n'était, sous le regard indifférent de Yura et Oler.
Il y a peu de gens ici, une dizaine, une vingtaine max, selon nos estimations. En tout cas, nous, on a vu deux personnes maximum. Certains se déplacent à moto, en voiture, d'autres à pied, sur leurs deux jambes. Non, mais en fait, on ne sait rien d'eux.
Oui, il y en a qui vivent de l'autre côté du ruisseau. Là-bas, on a vu quelqu'un dans une maison. Ce côté-ci, il n'y a plus personne. En fait, ici, c'est le front. Et eux, ils vivent là, à portée de tir.
Et ils vivent dans leur sous-sol ?
J'en sais rien, franchement, pour tout vous dire, j'en sais fichtrement rien.
On
ne sait pas, on n'a pas de contact avec eux.
Ouais, on évite d'avoir des contacts. Pourquoi on ferait ça ? On a tout ce qu'il faut. On ne les connaît pas, on n'a pas besoin d'eux. C'est pour ça qu'on a des règles de sécurité.
Ouais, les gens sont pas tous pareils. Il y a de tout. Le moins de contact on a, le mieux on se porte. Ils pourraient donner nos coordonnées.
Oui, bien sûr. Il peut y avoir des informateurs.
Ils pourraient nous donner. Ils peuvent leur filer notre géolocalisation. Et les Russes peuvent venir nous égorger ou nous envoyer des obus. Et hop, terminé.
Oui. Il vaut mieux pas rigoler avec ça. Peut-être que c'est pas le cas, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux éviter les problèmes.
Oui, on leur dit bonjour, mais ça s'arrête là.
Quand on arrive ici, on pose le camouflage. Oui, on salue les gens.
Alors, vous ne faites confiance à personne ?
Ouais, ici on dit, faut faire confiance, mais pas trop.
Ouais, fais confiance, mais méfie-toi.
On vit selon ce concept, et c'est sûrement pour ça qu'on est toujours en vie.
On entend un drone qui passe là, et il fait un bruit un peu différent cette fois, un peu plus strident.
Oula, celui-là, je sais pas.
Il est à nous ou pas ?
Il faut descendre, vas-y, descends, descends, descends.
Midi, à l'intérieur, sans lumière du jour. 3 mètres sur 5, une table, un réchaud, des couchettes. Le temps s'étire, rythmé par le cliquetis du radiateur. Les frappes des bombes guidées motorisées, les câbles, font vibrer la terre. Installé sur sa couchette, bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles, Valico explique que ce sont les hommes eux-mêmes qui ont construit cet abri. Ils ont dû terminer à la pelle, car l'excavateur qui avait été utilisé au début a été visé par des drones.
Plus il y a de couches de rondins de bois, plus l'abri est considéré comme sûr. A priori, 3 couches de rondins avec 50 cm de terre, ça doit résister sans problème à une frappe directe d'obus de calibre 120 mm.
Parce que le bois, les troncs, c'est très fibreux et que ça, c'est une bonne protection contre les explosions.
Oui, le bois et la terre, ça amortit la frappe. Évidemment, plus il y a de couches de rondins, mieux c'est.
Un abri qui permet de préserver un léger semblant de normalité. Aujourd'hui, c'est Oler qui prépare à manger. Des patates frites, selon sa recette, avec de la nette, du persil et un mélange d'épices, paprika, curcuma, rare moment de détente. Et il me vient cette question. Est-ce que sur le front, ces hommes se permettent de rêver ? C'est quoi leur rêve d'avenir après la guerre ?
Ah oui,
j'y pense souvent. Mon rêve, c'est de voyager, c'est d'emmener ma femme un mois ou deux avec un camping-car, faire un tour le long de la Côte d'Azur ou dans les Alpes autrichiennes. J'ai envie de lui montrer ce que j'ai vu, qu'elle puisse le voir à son tour. J'en ai parlé beaucoup. Souvent, elle me dit, ah, tu m'emmènes jamais nulle part. On a voyagé un peu, mais elle n'a pas visité l'Europe. Elle a été en République tchèque au début de la guerre avec notre fils pour travailler.
Je sais pas trop. M'acheter une maison, y faire des travaux. Voilà. J'en ai déjà trouvé une, chez moi, dans la région de Vinnytsia. J'ai repéré une petite maison que je peux acheter. Ouais, ce sera bien. D'abord, je l'aménagerai.
Et Yura, il ira lui rendre une petite visite dans sa maison.
Bien sûr, s'il m'invite.
Et il l'invite?
Ah, ça va dépendre de son comportement. Non, je n'ai pas de copine. On s'est séparés en 2024. 2024 ou 2023, je ne me rappelle pas. C'est quand j'étais à l'hôpital.
Bah, y a plein de filles qui attendent de rencontrer de beaux garçons, hein.
Mais c'est ce que je lui dis tout le temps. Il y en a plein. Mais
je suis petit le coach.
Ah mais je ne dis pas le contraire. Mais pour l'instant, mon affaire, c'est la guerre. On verra. Voilà, calme-toi mon garçon.
Et dans un lieu aussi confiné, quand on reste ensemble comme ça pendant 15 jours, sans se quitter, jamais, ça vous arrive de vous disputer ?
Ça arrive. Dans ces cas-là, on se sépare un peu, on met un peu les distances.
Ben ouais, c'est normal. À Kherson, c'est arrivé souvent.
On ne se parle pas pendant 2 jours et après ça va mieux. On boude un peu, ça passe. C'est ce qui arrive le plus souvent. C'est le temps qu'apaise les choses.
Le mieux, c'est d'éviter les conflits.
Ouais, le temps qu'apaise les choses. On sait tous qu'on a des armes ici. Et quoi, on va pas commencer à se tirer dessus quand même? C'est comme au boulot, quand je partage la cabine du camion avec un collègue. Au début ça va, mais au bout de 2 mois, le mec t'as juste envie de l'étrangler.
Dans la vie civile, j'ai un très bon ami. Quand on est ensemble, on s'engueule tout le temps. Il faut croire que c'est comme ça qu'on s'aime.
C'est comme une deuxième famille. Quand tu vas en permission, au bout de quelques jours, les gars finissent par te manquer. Et on commence même à s'appeler. Les gars, qu'est-ce que vous faites? On se voit bientôt?
Et vous qui êtes sur le front depuis bientôt 4 ans, vous avez quelle image des déserteurs ?
Des situations de conflit, on en aura quoi qu'il arrive. Mais si la personne se comporte de façon appropriée, ça ira. Mais les gens sont différents. Dans quel état certains vont sortir du front ? Difficile à dire. Quels problèmes ils vont traîner avec eux dans la vie normale ? Si un mec qui s'est planqué en rencontre un autre qui a combattu, Dieu nous préserve de leur rencontre autour d'une table. Qu'est-ce que ça va donner ?
Je pense que si une personne se comporte bien, elle réagira bien, c'est tout.
Attends, mais tout le monde ne va pas sortir d'ici en bon état. C'est pas difficile à comprendre. Ouais, c'est pas voulu, mais c'est comme ça.
Si une personne pète les plombs, elle va se comporter de façon agressive.
Le principal, c'est de ne pas provoquer des militaires, à mon avis.
Mais les militaires non plus, ils ne doivent pas provoquer des civils. Bah écoute, en fait, tu sais quoi? Moi personnellement, je m'en fous. À quoi ça sert d'aller demander des comptes à celui qui a réussi à bien se planquer? Faut aller plutôt poser des questions à celui qui n'arrive pas à le trouver. L'autre, s'il n'est pas attrapé, bravo à lui.
Et selon vous, pourquoi elle a commencé cette guerre? Qu'est-ce qu'il veut, Poutine, en attaquant l'Ukraine?
Je ne sais pas. Les Russes, les gens simples, ils veulent gagner de l'argent. Je parle des gens simples. Mais les autres au-dessus, qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas. Eux, ils avaient tout, absolument tout. Le vieux, là, Poutine. Il avait des jeunes filles, de l'argent, tout. Tout ce qu'il voulait, il l'avait. Qu'est-ce qu'il fallait de plus? J'en sais rien. Poutine, il a été accueilli absolument partout. Il se prosternait devant lui. Il pouvait venir sans problème en Europe, surtout en Allemagne.
Oui, grâce au gaz et au pétrole.
Et maintenant, c'est la merde.
Et pour Poutine, tout ça, c'est la faute de l'OTAN.
C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça fout là, la question de l'OTAN? Est-ce que l'OTAN a occupé des pays et leur a fait la guerre? Ok, les États-Unis, ils sont allés en Afghanistan, sont les États-Unis. Mais dites-moi, qu'est-ce que la Pologne a envahi? La France, l'Italie, l'Allemagne? Est-ce qu'ils sont intervenus quelque part? Pas du tout. Ils vivent tranquilles. Le principal pour eux, c'est qu'on leur foute la paix. J'ai souvent été en Europe avant la guerre. Et j'ai vu, les Européens, c'est sûr, ils ne veulent pas la guerre chez eux.
Oui, ils ne veulent pas la guerre chez eux, mais ils vous aident. La France, Emmanuel Macron, ils viennent de vous promettre de livrer des rafales.
Et quand est-ce qu'ils seront livrés? Oui, c'est bien. Personne ne dit que c'est nul. On peut qu'applaudir. Mais on ne sait pas quand on les aura. Oui, on reçoit de l'aide militaire. On a reçu des blindés d'Europe, comme celui avec lequel vous êtes venu. Mais ils sont tous un peu vieux. Et je vous parle là de mon expérience. On a été formés. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de trouver des pièces détachées. Heureusement qu'on a des types débrouillards. En Europe, t'as une panne, c'est vite réparé, tu vas au garage, tu changes le moteur, il y a deux personnes qui sont occupées, c'est fini. Chez nous, ça traîne, c'est compliqué, faut du monde. Mais bon, on se bat, on se démerde, ça va, on se plaint pas, on aimerait bien, mais on ne peut pas se le
permettre. 21h, il fait nuit noire depuis un bon moment déjà. Alors que les hommes s'apprêtent à se relayer toutes les deux heures, Valico, sur son téléphone portable, fait défiler des photos, des souvenirs de formation auxquels ont assisté ces soldats ukrainiens dans plusieurs pays d'Europe.
Là, c'était pendant notre formation en Allemagne.
Et vous, vous êtes où?
Voilà, je suis là. Et là, c'est une mitrailleuse. On a tiré avec ça. Et ils l'appellent la scie circulaire d'Hitler. Là, ce sont des gars du renseignement hollandais, nos instructeurs. Le certificat qu'ils nous ont donné à la fin. Ici, les instructeurs. Notre traductrice qui courait partout avec nous. Voilà ce qu'on a fait là-bas. Avec toute notre équipe de renseignement et les Hollandais.
Elles sont géniales ces photos. C'était en 2024, en mai 2024. Valico nous fait couper l'enregistrement. Ce qu'il a du mal à dire, c'est que quelques mois après ça, toute son équipe a été envoyée à Pokrovsk en novembre 2024. C'était le début de l'offensive russe sur la ville. Il montre des photos de lui et de ses frères d'armes dans des ruines, deux cadavres de soldats russes dans une cage d'escalier. Il ne veut pas nous raconter dans le détail ce qu'il a vécu là-bas, il en est incapable. Mais il veut bien parler de la situation en général, alors nous reprenons l'enregistrement.
Les Russes ont adopté la stratégie suivante. De ce que j'ai compris, d'abord ils envoient tous leurs sales types, comme chair à canon. Ils avancent, ils prennent des positions par groupe de 2-3 personnes. Et voilà, c'est comme ça qu'ils s'installent. Ces gars-là, les Russes, ils s'en foutent. Mais ensuite, ils envoient l'élite qui renforce les positions. Ils ont l'avantage du nombre. Ils sont beaucoup plus nombreux. C'est tout. Surtout ces ordures.
Et vous dites qu'à Pokrovsk, par exemple, ils sont vraiment pas bons dans les combats de rue.
Oui, ça arrive qu'ils soient envoyés sans armes, simplement pour occuper une maison ou un territoire. Oui, tout ce que vous entendez là-dessus, c'est vrai.
Et on nous a dit que les Russes, ils avancent parfois avec des moutons, des ânes. Ils fixent leur matériel sur les animaux pour mieux avancer. Et puis j'ai vu aussi des photos de soldats russes qui viennent d'être faits prisonniers. Et quand on les voit, on se demande vraiment s'ils savent ce qu'ils font là.
Oui, je crois que j'ai vu la vidéo aussi.
Oui, moi aussi.
Ils les envoient sans nourriture, sans eau, et ils avancent sans savoir pourquoi ni dans quelle direction.
Moi, j'ai un copain qui m'a raconté un truc. Un jour où il était sur sa position, il était avec les nôtres, tout un groupe. Il faisait des allers-retours, une fois dans un sens, une fois dans un autre. Et à un moment, dans un bâtiment à moitié en ruine où plus personne n'habitait, ils ont vu un Russe sortir. Il était peut-être resté 2 semaines là. Personne ne l'avait remarqué. Il était armé, il avait une mitraillette, des munitions. Il attendait, il ne faisait rien. Il a fini par se rendre. Fin de l'histoire.
Et les formations que vous avez eues en Europe, ça vous a été utile ?
On avait déjà vécu pas mal de choses, on en savait déjà beaucoup. Mais bon, être un peu mieux formé ne fait jamais de mal. Alors on a eu cet échange avec nos partenaires néerlandais. Chez eux, c'est un peu différent. Mais on a quand même pu apprendre quelques trucs utiles. On est resté 1 mois, peut-être un peu plus.
Qu'est-ce qu'il a appris, par exemple ?
On s'est beaucoup entraîné dans les bois. Et là-bas, l'essentiel, c'était d'apprendre les techniques de camouflage pour éviter les embuscades. Se rendre invisible sur ce type de terrain. Des choses comme ça. Tout ce qu'ils savent, ils nous l'ont appris. On leur a raconté ce qu'on vivait. De leur côté, il y en a aussi qui se sont battus, qui ont une expérience de la guerre, mais pas sur le même terrain. De ce que j'ai compris, pour eux, leur spécialité, c'était plutôt les opérations en terrain désertique. Ils n'ont pas la même expérience que nous, des drones, ni même de l'artillerie. Ils ne connaissent pas tout ça. Mais bon, ils ont partagé leur expérience avec nous et nous la nôtre avec eux.
Aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui va apprendre de l'armée ukrainienne. Et ça a déjà commencé, je crois.
C'est vrai que partout où nous avons été, en Allemagne, en République tchèque, en Grande-Bretagne, partout, les instructeurs trouvaient que vraiment, on est d'un niveau au-dessus. Vraiment, plusieurs crans au-dessus même, d'un niveau supérieur. Les formateurs étaient hyper admiratifs de nos militaires, qui savent faire tant de choses.
C'est l'armée qui a le plus d'expérience aujourd'hui, je crois, puisque ça fait 11 ans. En tout cas pour l'Europe.
Je pense que c'est le cas. Parce que tout s'acquiert via l'expérience. Surtout pour les gars qui combattent depuis 2022. On peut dire qu'ils ont déjà tout vécu.
Et les armées européennes auront peut-être un jour besoin de vous. Beaucoup de services de renseignement, comme au Danemark, plusieurs pays d'Europe du Nord, disent qu'un jour la Russie va attaquer l'Union européenne.
Je pense que oui. Et dans ce cas, nous partagerons à notre tour notre expérience. Ils nous aident dans certains domaines et nous les aiderons dans d'autres. Ça marche comme ça.
Chacun prend place sur sa couchette. Un homme veille sur un téléphone pour regarder si un nouvel ordre tombe. Au cœur de la nuit, les bombardements se font moins intenses. Mais dès 5 heures le lendemain matin, 5 bombes guidées s'écrasent à l'extérieur. 6 heures, notre blindé arrive. Nous quittons Artem, Oler, Valiko, Yura et leur commandant, Riba. Nous venons de passer 24 heures avec eux. Pour eux, la relève, ce sera dans 2 semaines.
В небе чисто мочути грім, в небі свистали чути гімн, в небі чисто мотний дим, горить ліса лечути гімн, в небі чисто мочути грім, в небі свистали.
Україна, 24 heures sur la ligne de front, un reportage de Virginie Pironon avec Alison Vicrobeck à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous quittons le Donbass pour la capitale ukrainienne, car notre invitée, la sociologue et politologue Anna Colin-Lebedev, se trouve à Kiev. Vous avez entendu donc ces 4 hommes se livrer un peu. Ils mettent à distance les choses les plus douloureuses par le rire ou le silence. Ce ne sont pas des militaires de carrière, ils n'étaient pas destinés à faire la guerre. Mais Virginie l'a précisé tout à l'heure en introduction, ce sont des engagés volontaires et ils ont pleinement endossé leur rôle. Vous vous intéressez justement à ce processus qui a fait de civils ukrainiens qui n'avaient aucun lien avec le militaire, de ce qui a fait d'eux des soldats.
Oui, il faut bien se dire que l'armée ukrainienne aujourd'hui est majoritairement et même très majoritairement composée de civils d'hier. Et non seulement de civils d'hier, mais de personnes qui n'avaient pas vraiment fait le choix du métier militaire et qui donc se sont retrouvées sur le front par eux-mêmes, en partant volontairement s'enrôler dans une unité militaire ou alors via le processus de mobilisation à partir de 2022, mais donc en abandonnant complètement leur vie d'avant. Et pour beaucoup de ces hommes, alors on voit dans le reportage, ils ont tous les âges, mais aujourd'hui, l'armée ukrainienne est en grande partie composée d'hommes qui ont 40, 45 ans, voire beaucoup plus, et donc qui ont une vie derrière eux, une vie tout à fait ordinaire, où ils ne s'imaginaient absolument pas les armes à la main.
Alors, ces artilleurs sont au front, ils risquent leur vie à tout instant, ils savent qu'ils peuvent mourir, et ce n'est pas de la théorie, puisqu'ils ont vu des camarades tomber, mais ils n'ont pas l'air de se demander ce qu'ils font là.
Alors, je pense que c'est une des particularités de cette guerre, et notamment depuis, aujourd'hui, où on est à presque 4 ans de conflit armé, c'est que les Ukrainiens qui combattent, mais aussi les Ukrainiens qui sont à l'arrière, par exemple ceux que je rencontre, ont toujours une idée très claire du sens de leur combat, de la raison pour laquelle ils combattent. C'est-à-dire qu'il y a un discours que je n'ai jamais entendu en Ukraine, c'est celui de on ne sait pas pourquoi on est là sur le front, on ne sait pas quel est le sens en fait de notre résistance. Pour les Ukrainiens aujourd'hui, la Russie est une menace parce que la Russie a une volonté, dans leur perception, exterminatrice vis-à-vis du peuple ukrainien dans son ensemble, une volonté destructrice du pays physiquement, mais aussi symboliquement, de sa spécificité. Et donc, en fait, quelle que soit la fatigue, quelles que soient les difficultés sur le terrain, le sens du combat, il est toujours là au cœur de ses troupes.
Virginie, vous aussi, vous avez pris des risques pour tourner ce reportage. Avant d'aller sur la ligne de front, vous en avez parlé en équipe ?
Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois qu'on se rend comme ça sur des terrains risqués. On en parle d'abord, évidemment, à 3. Est-ce que tout le monde est d'accord pour y aller ? Et puis surtout, on se pose la question de la plus-value éditoriale. Qu'est-ce qu'on va aller chercher sur place ? Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque-là ? Et là, sur cette mission à Pokrovsk, on s'est dit que ça valait vraiment le coup parce qu'on n'avait pas du tout encore entendu, nous, les militaires, comme ça, en situation. Et c'est vrai que le fait d'avoir pu passer 24 heures avec eux a permis d'avoir un dialogue un peu différent de ce qu'on peut faire si on prend, par exemple, ne serait-ce que 2 heures.
Et vous avez eu effectivement des confidences. Il y a notamment Artem, 23 ans, qui pense à ses parents, à leur inquiétude. Moi, ça m'a frappé parce qu'en fait, il dit « ma plus grande peur, c'est qu'ils ne puissent plus me voir » plutôt que de dire « ma plus grande peur, c'est de mourir ». Anna Colin-Lebedev, vous avez recueilli ce genre de témoignages ?
Bien évidemment, cette peur de mourir est là et c'est tout à fait logique. On est sur des combats extrêmement durs où l'armée ukrainienne est en difficulté. La peur de mourir, elle est déjà là à l'arrière. y compris dans les villes qui, en apparence, sont très très loin de la ligne de front, puisque la Russie attaque massivement par des missiles, par des drones toute la nuit, et qu'en fait, les Ukrainiens que je rencontre me disent, quand ils se couchent le soir, qu'ils ne sont pas du tout sûrs de se réveiller le matin. Donc la peur de mourir, elle est bien évidemment très différente sur le front, mais elle est déjà présente dans la vie civile. Aujourd'hui, les Ukrainiens qui combattent ou qui s'engagent pour combattre craignent aujourd'hui de ne pas avoir les moyens, de ne pas être en capacité en fait de faire face à la Russie qui avance avec une masse d'hommes, qui a une capacité de déployer un armement que l'armée ukrainienne n'a pas. Et donc cette peur du déséquilibre, elle est également là. Hein, et plus on va avoir des difficultés au niveau international, l'abandon des États-Unis, les retards de livraison d'armes par exemple, plus chez les combattants ukrainiens, il y aura cette sensation que oui, ils sont prêts à combattre, mais à armes de plus en plus inégales.
Alors, le risque de déséquilibre s'accentue aussi parce que les déserteurs sont de plus en plus nombreux. 2025 serait une année record en la matière. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène ?
Alors, en fait, on a un petit biais déformant, c'est-à-dire que aujourd'hui, la numérisation du recensement des forces armées ukrainiennes, qui est très récente, rend plus visible les processus de désertion qui existaient déjà auparavant. Hein, c'est pas comme si on avait une augmentation très spectaculaire du nombre de déserteurs, c'est juste qu'on a des chiffres aujourd'hui qui sont plus fiables. Alors, l'essentiel de ces désertions vont se décomposer en deux catégories. La première, c'est en amont du départ sur le front, au moment de l'engagement des personnes dans l'armée, où là, en fait, notamment ceux qui sont mobilisés ont peur, précisément. Alors, certains ont peur de mourir, mais beaucoup ont peur, précisément, de ne pas être assez formés, de ne pas avoir le temps d'être formés, d'être mis sous commandement de commandants qui sont pas forcément compétents. C'est vraiment les deux peurs qui sont les plus importantes. Et puis, en aval de leur arrivée dans les forces armées, vous avez un phénomène très particulier de désertion comme prise de parole, c'est-à-dire que vous avez des combattants qui disent « moi je suis prêt à combattre, mais en revanche là, les conditions sont pas réunies ». Par exemple, il y a des décisions de commandants que je conteste, ou par exemple « je suis sur le front depuis 2022 ». Cela fait bientôt 4 ans qu'un certain nombre d'hommes et de femmes sont sur le front et ils considèrent que ils ont besoin d'être relevés. Donc aujourd'hui, le gouvernement ukrainien fait face à cette demande. Beaucoup de déserteurs désertent en disant « je reviens ». Si jamais on me dit pour combien de temps je dois encore rester sur le front. Et donc là, le gouvernement, par exemple, depuis un mois, lance un processus législatif pour recruter désormais des combattants pour une durée déterminée, pour que l'arrivée dans l'armée ne soit pas obligatoirement la fin de votre vie.
Et les déserteurs qui sont rattrapés, qu'est-ce qui leur arrive ?
Les déserteurs qui sont rattrapés ont aujourd'hui la possibilité de réintégrer une unité armée. C'est quelque chose qui a été vraiment proposé par l'État ukrainien. Ils ont la possibilité notamment de ne pas revenir dans leur corps d'armée, mais en revanche de changer d'unité, d'être transférés ailleurs. Je pense qu'en Ukraine, il y a une compréhension de cette nature complexe de la désertion qui ne vient pas de la volonté de ne pas combattre, mais de problèmes organisationnels d'une armée qui est confrontée à des défis très grands.
Alors de fait, l'armée a du mal à recruter suffisamment, alors que le front s'étend sur 1200 km. Des mesures effectivement ont été prises pour recruter plus largement, pour recruter autrement. Est-ce qu'elles sont efficaces ?
Alors aujourd'hui, il y a effectivement deux manières de recruter des forces armées ukrainiennes. D'une part, la mobilisation, c'est-à-dire l'obligation de conscription pour les citoyens masculins. Et donc, c'est à ce niveau-là que la difficulté est la plus visible. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'hommes aujourd'hui en Ukraine qui ne se voient pas partir au front et qui néanmoins sont soumis à l'obligation militaire. Donc là, on a une vraie tension, en fait, dans une société démocratique, entre la volonté d'un individu de vivre sa vie, voir ses libertés respectées, et en même temps, ses obligations de citoyens qui, en contexte de guerre, sont très importantes. Mais d'autre part, en fait, l'État ukrainien a, disons, la société a imaginé, les forces armées ont imaginé, et l'État ukrainien a diffusé à plus grande échelle ce qu'ils appellent le recruiting, c'est-à-dire un processus d'enrôlement dans l'armée qui permet à la personne de choisir, à la fois de choisir quel poste elle va occuper, de choisir l'unité dans laquelle elle veut aller, éventuellement le commandant sous les ordres duquel ils veulent combattre. Et ça, c'est quelque chose chose qui, quantitativement, ne va pas être majoritaire dans l'armée ukrainienne, mais qui change aussi l'image de l'engagement au combat. C'est-à-dire que voilà, les Ukrainiens qui partent de cette manière-là se disent que ils ont le choix dans la manière de défendre leur pays et peut-être qu'ils peuvent utiliser leurs compétences civiles. L'armée ukrainienne est obligée en fait de faire face, enfin d'imaginer ce genre de dispositif parce qu'elle recrute des hommes adultes à partir de 25 ans et jusqu'à 60 ans, et que donc il faut bien s'ajuster à ces hommes qui ont un métier, une vie avant, une famille, etc.
Alors la question est posée dans le reportage de qui doit faire la guerre. Pour Youra, c'est le rôle des papas, hein, pas des plus jeunes. Mais il y a bien un programme qui vise les 18-24 ans qui a été mis en place pour les inciter à s'engager.
Il faut bien se dire qu'en Ukraine, la jeune génération, les 18-25 ans, est une génération très creuse. C'est le cas dans la plupart des pays d'ex-URSS, en tout cas les pays européens, parce que ce sont des jeunes qui sont nés à partir des années 1990 dans des conditions de très grande instabilité où les familles ont fait très très peu d'enfants. Et donc en fait, le vivier, il n'est pas là. L'Ukraine de demain aura besoin de ces jeunes en fait pour se reconstruire, pour assurer le futur de la nation. Et donc, il y a une sorte de consensus aujourd'hui en Ukraine pour dire on préserve la génération de demain. Et en revanche, les adultes plus âgés, eux, doivent partir combattre. C'est quelque chose qui est aussi la particularité de cette guerre. Et c'est vrai qu'il y a eu des pressions, notamment de la part des États-Unis, pour diminuer l'âge de la mobilisation. Aujourd'hui, on est mobilisé à partir de 25 ans. Les Ukrainiens considèrent que ils doivent plutôt former la jeune génération aux armes pour en faire les officiers de l'armée de demain, plutôt que de les envoyer aujourd'hui sur le front où la situation est si difficile et ils risquent de perdre leur vie.
D'anciens prisonniers se sont portés volontaires pour commuer leur peine. Ils ont obtenu une libération conditionnelle pour servir dans l'armée avec la promesse d'être graciés à la fin de la guerre. C'est bien perçu, ça? Ça se passe bien?
Je n'entends pas de débat dans la société ukrainienne à ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, tous ceux qui sont prêts à s'engager pour combattre la Russie sont les bienvenus, que ce soit des personnes qui sont effectivement des condamnés pour différents motifs, mais aussi par exemple les étrangers. Il y a toute une dynamique par laquelle l'armée ukrainienne va accueillir et adapter des combattants étrangers volontaires.
Et donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est ce que vous disiez, c'est que l'armée s'adapte, se réforme, fait preuve de souplesse pour essayer de recruter dans les meilleures conditions.
Aujourd'hui, ce qui est très intéressant en Ukraine, c'est qu'il y a une décentralisation de cette manière de gérer la guerre, d'innover sur la ligne de front, de s'adapter par exemple aux nouvelles techniques. On entend beaucoup parler de drones dans le reportage, mais aussi de recruter. Et aujourd'hui, c'est chacune des unités militaires qui va par exemple communiquer avec la société. Les campagnes de recrutement dans l'armée ne sont pas des campagnes centralisées où c'est l'État qui vous parle, mais en revanche, chacune des brigades ou chacun des corps armés qui va mettre en place parfois des affiches publicitaires, parfois des centres d'accueil et de recrutement, parfois même des moyens beaucoup plus créatifs, comme par exemple le 3e corps d'armée, ancienne 3e brigade d'assaut, qui va mettre en place une semaine test au sein de la brigade pour les gens qui ne savent pas s'ils sont prêts à y aller ou pas et qui donc vivent en conditions réelles dans le centre d'entraînement pendant une semaine. Il va y avoir tout un système aussi, enfin voilà, toute une communication qui passe par les réseaux sociaux, où en fait l'idée pour les corps armés, c'est d'expliquer, parce que la guerre, c'est beaucoup d'incertitudes. Le front, c'est énormément de craintes et de fantasmes. Et donc, en fait, expliquer ce qui vous arrive quand vous arrivez dans les forces armées, comment vous êtes formé et pendant combien de temps, qui seront vos camarades, mais aussi, par exemple, comment est-ce que vos familles sont prises en charge pendant que vous n'êtes pas là et qu'est-ce qui arrivera si vous êtes blessé ou tué à vous et à vos proches. Ben voilà, tout ça, c'est des choses, des questions extrêmement concrètes et qui vont déterminer l'engagement. Et par exemple, la brigade Azov, que Virginie Peronon a suivi pour ce reportage, eux, ils ont une longue tradition de ce qu'ils appellent le patronage, c'est-à-dire à l'arrière des personnes dans la brigade qui sont en charge du soutien des familles pour que voilà, il y ait cette sensation de faire partie d'une famille quand on est dans une unité armée.
Alors, ce qui est impressionnant avec ces artilleurs qu'on a entendus, qui sont donc d'anciens civils, c'est que ce sont vraiment devenus des professionnels, à tel point que quand ils sont allés suivre des formations en Europe, ils n'ont manifestement pas appris grand-chose. C'est plutôt eux, les experts, qui ont des choses à apprendre aux Européens.
L'armée ukrainienne aujourd'hui, la seule armée européenne qui a une expérience de combat de haute intensité, de grande ampleur et en temps réel, dans un contexte où technologiquement, la guerre change énormément. C'est-à-dire que le même reportage qui aurait été fait début 2022, il n'y aurait pas eu ces drones qui survolent en permanence le champ de bataille. Et donc, ces avancées technologiques demandent effectivement à la fois des compétences que les gens acquièrent sur le tas, mais demandent aussi une transformation, une innovation permanente. Les Ukrainiens ne cessent en fait d'imaginer et d'inventer des choses tout en étant sur la ligne de front. Il est certain que nos armées à l'arrière essaient d'en retirer des expériences, de cette expérience un certain nombre d'enseignements, mais qu'il y a un vrai décalage. Et aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui en réalité sont les plus aptes à apprendre aux armées européennes comment résister à la Russie en raison de précisément cette expérience qui les a forcés à s'adapter à très grande vitesse.
Les tractations là se poursuivent entre Américains, Russes, Ukrainiens, avec les Européens qui essayent d'avoir leur mot à dire. Tout cela pour parvenir à un cessez-le-feu, esquisser un plan de paix. Comment est-ce que tout cela est regardé en Ukraine? Mais surtout, est-ce qu'on peut avoir le même regard selon que l'on est au front ou à l'arrière?
Je pense qu'effectivement, le regard au front et à l'arrière vont être différents. Déjà parce que les informations qui parviennent sont forcément différentes. Les combattants sur le front ne sont pas baignés dans ce flot informationnel permanent de rencontres au sommet, de discussions de tel ou tel point, d'un éventuel cessez-le-feu. Ils sont, ça leur parvient comme des échos beaucoup plus sourds. Ce qu'ils voient, eux, c'est une armée russe qui ne cesse de les attaquer. Alors, à l'arrière, bien évidemment, cette situation trouble énormément les Ukrainiens. Non pas parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait un règlement de paix. Personne n'a d'illusion, en fait, sur la volonté de la Russie de poursuivre et sur le caractère inacceptable d'un règlement véritable du conflit pour les Russes. Mais en revanche, cette incertitude, en fait, sur un gel du conflit que l'Ukraine serait forcée à accepter, elle est très dérangeante. D'une part, les Ukrainiens considèrent qu'il s'agit d'une interruption. Quelles que soient les conditions d'un cessez-le-feu, il ne s'agira pas d'un règlement de paix et d'une interruption. Et donc, ils posent la question, qui va en bénéficier? Est-ce que c'est l'armée ukrainienne qui va bénéficier de cette pause pour se refaire des forces et pouvoir résister mieux à la Russie? Mais est-ce que finalement, les Européens n'en profiteront pas pour se désengager et pour se dire, c'est gelé, on laisse les Ukrainiens se débrouiller désormais pour tenir leur ligne de front, d'où cet attachement, en fait, aux conditions de sécurité. Ils se demandent aussi, en fait, comment la Russie mettra ce temps à profit, parce que précisément, l'Europe est lente. La Russie est rapide et la Russie pourra reconstituer des forces. Et les Ukrainiens se posent la question, est-ce que, quand la guerre reprendra, parce que pour eux ce n'est pas ainsi, c'est un camp, est-ce que c'est la Russie qui se sera plus consolidée ou nous? Et aussi, c'est extrêmement compliqué, ces négociations de cessez-le-feu, pour précisément le recrutement dans les forces armées. C'est-à-dire que ça, tous mes interlocuteurs me le disent. Aujourd'hui, les gens, quand ils entendent parler de pourparlers, ils attendent avant d'aller rejoindre les unités et de signer un contrat avec l'armée. Parce qu'après tout, si la guerre se termine demain, si les combats se terminent demain, peut-être que finalement, il n'y a pas besoin d'eux. Peut-être que finalement, ils peuvent rester chez eux. Et donc, en fait, ces négociations qui traînent en long ont aussi un effet sur le recrutement dans les troupes.
Merci Anna Colin-Lebedev. Le grand reportage de cette semaine, Ukraine 24 heures sur la ligne de front, était signé Virginie Pironon avec Yachar Fazilov et Marc Garvenès. Réalisation Alison Vicrobeck et Axel Dubois. À la technique Jean-Raphaël Pont, au web Caroline Beneteau. Documentation Patricia Millera et Véronique Le Faller. Pour retrouver ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.